France Culture.
Les nuits de France Culture.
Si une grande partie des œuvres de Marguerite Yourcenar sont d'inspiration antique, ou du moins historique, Le Denier du Rêve fait figure d'exception. C'est une fresque contemporaine, au moment de l'écriture et de la publication en 1934, qui met en scène de façon fictive l'attentat raté sur Benito Mussolini. Comme elle le décrit elle-même, c'est un récit mi-réaliste, mi-symbolique d'un attentat antifasciste à Londres en l'an 11 de la dictature, qui semble s'écarter des habitudes de l'écrivaine, du moins telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourtant, Le Denier du Rêve n'est que le troisième roman de Yourcenar, qui est alors bien loin de la renommée que lui apporteront les mémoires d'Adrien et l'œuvre au noir. Elle-même d'ailleurs reconnaît volontiers ce livre comme faisant partie de ses juvénilis, et se dit à multiples reprises insatisfaite de son travail, tant et si bien que, chose rare chez les écrivains, elle se décide à le retravailler, en vue d'une deuxième publication en 1959. Dans ce numéro d'Un livre des voix de Pierre Cipriot et Evelyne Frémy, ce sont des extraits de cette deuxième édition qui sont donnés à entendre. C'est une lecture accompagnée par Yourcenar elle-même qui nous est proposée, où elle dissèque et surtout critique son propre travail, qu'elle juge, et ce malgré la réécriture, encore largement insatisfaisant. C'est donc un voyage dans l'Italie fasciste des années 30, au sein d'une fiction commentée par l'autrice elle-même, que nous offre cette émission diffusée pour la première fois le 5 juillet 1971.
Evelyne Frémy va vous présenter ce soir une émission consacrée à Marguerite Yourcenar, dont les éditions Gallimard viennent de publier un roman, Denier du rêve, et Théâtre 1, qui comporte plusieurs pièces de théâtre, dont Rendre à César, La petite sirène et Le dialogue dans le marécage. Marguerite Yourcenar est née à Bruxelles en 1903. Elle a commencé dans la littérature en 1929 avec Alexis ou le traité du vain combat. C'est en 1951, avec les mémoires d'Adrien, qu'elle atteignit le grand public. Tour à tour poète, romancier, nouvelliste, prosateur, traductrice, elle a fait preuve d'une inlassable activité révélant au lecteur français le grand poète grec Constantin Cavafy, préfaçant un traité de mystique hindoue, traduisant aussi bien Henry James que Virginia Woolf, réunissant sous le titre de « Fleuve profond, sombre rivière », une anthologie de négro spiritual. D'une construction à la fois ample et souple, les romans de Marguerite Yourcenar nous font passer de l'analyse la plus stricte au récit romanesque, libre ou ironique, mais tout aussi attentif que les pages d'observation, car là encore le moindre détail a un sens. L'irrationnel qui occupe une si grande place dans cette œuvre, les rêves, les visions surprenantes dans les miroirs ou les instruments d'optique, les intuitions qui rendent l'homme plus universel que nature, tout ce mystère est ici encore rendu plus insolite à force d'exactitude. Plus que le romanesque, Marguerite Yourcenar aime le drame, c'est-à-dire le roman qui se juge, se nie lui-même et dénonce l'incohérence de la vie qui est un mauvais roman. Ce n'est pas ce qui arrive aux êtres qui l'intéressent, mais ce qu'ils pensent de leur existence quand ils la redécouvrent et la jugent avec suffisamment de détachement pour réfléchir enfin sur la vraie nature de leur existence. Tous les héros de Marguerite Yourcenar sont présentés ainsi au moment où ils vont changer de vie. Quand sont à maturité ces fruits psychologiques dont ils ont été largement pourvus, et qu'une personne d'un roman intitulé « Le coup de grâce » énumère ainsi. Le dévouement à une cause, le goût de la poésie lyrique, l'amitié envers une jeune fille ardente. C'est en effet par le plaisir que la nécessité de la vie peut, dans les romans de Marguerite Yourcenar, s'identifier avec notre volonté, et une volonté aisée et heureuse de s'exercer. Le plaisir, ici, est l'école de la sagesse. Pour Marguerite Yourcenar, l'homme peut donc accroître sa volonté en acceptant le monde et en s'identifiant à lui, ou bien il peut aussi approfondir sa pensée et se dresser contre le monde en essayant de réduire le moi et le monde à quelques certitudes métaphysiques. C'est ainsi que dans le dernier roman de Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir, Zénon se sert de son esprit comme d'un coin pour élargir de son mieux les interstices du mur qui de toutes parts nous confine. Mais cette surtension de la connaissance altère la faculté même de connaître, qui s'éprend moins de ce qu'elle trouve, que de sa propre investigation dans le vide. Peu importe d'ailleurs cette passion spirituelle qui impose ses vies fictives à nous comme révélation ou injonction, est plus émouvante et plus fascinante que toutes les connaissances théoriques. Car cette recherche physique ou métaphysique, qui n'est pour nous le plus souvent qu'un jeu d'idées, un résidu de vieille énigme, elle prend chez Marguerite Yourcenar toute sa verdeur. Recherche mêlée profondément aux émotions, à l'orgueil, à la bonté, aux élans de ses personnages. Ils vivent pour cette ardeur qui fait d'eux des médiateurs traversés par tous les possibles, les effets ultra profonds, les résonances encore inconcevables.
La version définitive du Denier du rêve date de 1959 et il y avait eu avant une première version en 1934. Et ce que nous lisons aujourd'hui, c'est la même version que celle de 1959.
Absolument. En effet, après 1959, j'ai retravaillé ce sujet, mais sous une forme dramatique, sous la forme de la pièce intitulée « Rendre à César », qui paraît en même temps que la republication de ce roman dans le volume 1 de mon théâtre. Mais le roman lui-même est resté inchangé, sauf peut-être pour quelques virgules.
Ce qui m'intéresserait, c'est de connaître les modifications, les changements qu'il y a eu entre l'édition de 34 et celle de 59. Là, vous avez pris du recul vis-à-vis de cette œuvre et comment ça s'est manifesté?
Il y a eu des changements très nombreux. Le manuscrit d'abord de cette seconde version et ensuite les épreuves sont un véritable grimoire. À tel point j'ai mêlé certaines phrases de la version de 34 à un texte tout à fait nouveau de 59 qui représente, je crois, à peu près les trois quarts du livre. Et ma raison pour faire ces changements tout de même très considérables qui font du Denier du rêve de 59 un autre livre est que le texte que j'avais écrit en 34 et qui traitait exactement du même sujet avec les mêmes personnages m'a paru en le relisant insuffisant. C'était la première fois que je m'essayais à écrire un roman contemporain qui ne soit pas un récit simplement sur la vie intime, une sorte de fresque, enfin, qui nous donne l'impression, les bruits et les couleurs de la rue de Rome à un certain jour de l'an 1933. Et j'ai eu l'impression, en me relisant, que j'avais commis, je dirais pas un certain nombre d'erreurs, non, mais que j'avais été très inférieur à ce que j'avais essayé de faire, que je n'avais pas assez fait sentir le ton des voix italiennes, que le ton de l'auteur, les décisions stylistiques de l'auteur, en quelque sorte, empiétaient sur la réalité des personnages, et que surtout, suivant au jour le jour l'actualité italienne du début du fascisme, tout en sentant très bien cette atmosphère d'inquiétude, de soupçon, de mécontentement larvé, tout ce qui représente finalement toujours toutes les dictatures, je n'avais pas centré mes détails, de manière à faire percevoir au public exactement ce qui se passait. Et j'ai essayé, dans la version de 59, de montrer ce qui me paraît essentiel dans Denier du rêve, un tout petit groupe de quelques personnes, plus averties que d'autres, des dangers de la situation, lancées dans la clandestinité, et une femme tentant d'en sortir par un attentat politique, et autour d'eux, les cercles concentriques de sympathie bien vague, de pitié, d'hostilité, d'indifférence, de compromis, jusqu'à ce que ça s'éloigne de plus en plus et qu'au fond, les gens ne s'intéressent pas du tout à leur drame. Montant enfin ce petit noyau au milieu d'un monde encore plongé complètement dans l'inertie. Et ça, évidemment, c'est la reconstruction de 59. C'est cet effort pour bien faire sentir ce que, naturellement, à distance, je voyais mieux. Les points de départ très faibles, très timides, très maladroits de ce qui va devenir peut-être plus tard un grand mouvement.
Le centre de l'œuvre, c'est donc un attentat contre Mussolini.
Et en effet, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu même un qui m'a en quelque sorte donné, en quelque sorte, un prétexte pour mon affabulation, qui a été commis, si on s'en rappelle, par une vieille dame anglaise hostile au fascisme. Tandis que là, j'avais connu à Rome, dans cette année 33, une jeune femme qui était la femme, non pas divorcée, il n'y avait pas encore de divorce en Italie à cette époque-là, c'est tout récent, mais séparée d'un médecin fasciste, et qui elle-même, comme Marcella, sortait d'un milieu populaire, avait un père maître d'école, était influencée par les doctrines anarchiques, qui ont toujours été si importantes en Italie, et qui se désespérait enfin de la situation, et qui était dans un état d'excitation et d'angoisse très frappant. Et qui, elle aussi, restait tout de même attachée à ce mari qui appartenait à ce parti qu'elle détestait. Et c'est autour d'elle, enfin, que j'ai écrit l'ouvrage.
Donc, le personnage central, c'est Marcella. J'aimerais qu'on parle de quelques-uns des autres personnages qu'on va évoquer dans les extraits qu'on va entendre.
Lequel, par exemple ?
Alors, nous pourrions parler de la marchande de fleurs, Dida.
Eh bien, la marchande de fleurs, Dida, c'est un personnage que certains critiquent, par exemple, à l'étranger, parce que Denis Durève a été pas mal traduit à l'étranger, trouve en quelque sorte un peu extérieur à l'ouvrage. Mais pour moi, pas du tout, parce qu'elle représente en quelque sorte la terre, la base même de la vie. C'est une vieille femme, à la fois gaie, bonne, dure, stupide et intelligente à sa manière, qui regarde de très loin les événements politiques, qui ne les comprend pas du tout, enfin qui s'aperçoit bien que tout va mal dans son village, mais enfin les gens qui sont au pouvoir doivent savoir ce qu'ils font, comme disent si souvent, et c'est toujours si triste, les gens très humbles qui ne peuvent pas s'en sortir, et qui a naturellement ses ennuis personnels, qui est très dur envers les siens, à qui son vieux prêtre de paroisse reproche d'être avare, et qui, une fois dans sa vie, commet, j'allais dire, un acte de charité pour se prouver à elle-même, enfin, qu'elle n'est pas damnée, qu'elle n'est pas si méchante qu'on le dit, mais qui a en elle-même l'abondance de la mère terre. Et dans le Denier du rêve, surtout au début, quand je l'avais imaginé en 34, il y avait cette superposition des personnages qui sont à la fois eux-mêmes et une sorte d'interprétation de la vie, de la terre, de la révolte politique, enfin, du mystère de la mort. Ça paraissait beaucoup dans la première ébauche, je l'ai beaucoup gommé dans la seconde, parce que j'ai l'impression que le lecteur doit deviner cela de lui-même sans que l'auteur le lui dise.
Quand on lui demandait où et quand elle était née, Dida répondait que c'était à Bagnani, sur l'Agno, il y avait bien longtemps, avant même que le roi ne fût entré dans Rome. Elle avait eu tant de frères et sœurs que leur nom lui sortait de la tête. La mère était morte de bonne heure. Dida avait dû s'occuper à sa place de tous ces agneaux du bon Dieu, mais heureusement, quand le Seigneur donne l'agneau, il donne aussi l'herbe. On gagnait gros de ce temps-là dans la vigne. Puis, si étrange que ce fût à dire, elle avait été belle fille, avec sous sa chemise des seins ronds comme des pommes d'amour. Elle avait épousé Fruttuoso, l'ancien jardinier de Villa Cervara, qui avait quitté pour avoir eu des mots avec les propriétaires. On avait acheté à Ponte Porzio un terrain pour faire en grand l'élevage des fleurs. Fruttuoso s'y connaissait mieux que personne en semis, en repiquage, en taille, en bouture. Il était venu des enfants, peut-être 8, ou 9 peut-être, y compris ceux qui n'étaient pas nés à terme et ceux qui n'avaient vécu que quelques jours, mais ceux-là, c'étaient de petits anges. Il avait fallu de nouveau élever tous ces agneaux du bon Dieu, les laver, les nourrir, leur taper dessus pour leur apprendre de bonnes manières, leur enseigner à gagner leur pain après l'âge de 9 ans et à la sortie de l'école. Fruttuoso allait, au point du jour, vendre à Rome dans sa carriole peinte. Il rentrait de bon matin, ensommeillé, le long des routes plates et roses. Son petit cheval connaissait le chemin. Un jour, à un passage à niveau, l'express se jeta comme un loup sur l'homme et l'attelage, écrasant leur bruit de sonnaille. On envoya le petit cheval et l'écarisseur, et Fruttuoso alla dormir au cimetière sous une couronne en fil de laiton qui durait plus et faisait aussi bon effet que de vraies fleurs. Dida connut des temps durs, qui par la suite se mélangèrent dans sa mémoire avec les temps durs de la Grande Guerre, où son aîné avait été tué à Caporetto. Bien que les enfants fussent déjà assez capables pour aider leur mère, elle avait pris un homme pour les gros ouvrages. Au bout de 10 mois, elle fêtait un nouveau baptême. Ce n'était pas un mauvais homme, ce Luca, mais il se connaissait mieux en femme qu'en fleurs. Les enfants grandissaient. Dida devenait, avec l'âge, plus avare qu'amoureuse. Lasse de nourrir pour rien ce va-nu-pied qui avait une fois, par paresse, laissé périr toutes ses roses, elle n'osait le renvoyer de peur du tranchant de son couteau. Enfin, ses 3 fils réussirent à enfoncer à coups de poing dans la tête de Luca des idées de départ. Dida, hurlante, reconduisit jusqu'au tournant de la route son Luca menaçant et couvert d'un plâtre. Les larmes lui coulaient des yeux comme l'eau des rigoles. Elle maudissait ses chiens de fils qui molestaient leur vieille mère. Elle n'avait pas de quoi lui offrir en guise d'adieu une veste et une casquette neuve. Le sang lui tournait de le voir partir. Il savait qu'elle mentait. Elle savait qu'il n'était pas dupe. Pendant quelques nuits, la famille veilla de crainte que Luca ne revînt mettre le feu ou faire du dégât dans la serre. Mais il se contenta d'aller chercher ailleurs à s'employer, chez une veuve. Ce fut alors à ses enfants que Mère Dida put refuser, à qui du tabac et des souliers vernis pour danser le dimanche, à qui du ruban, de la pommade ou une pièce de soie. Nanny, comme son père, fut happé par l'express. Il prit le train pour Naples et le paquebot pour Buenos Aires. Agnese partit faire la femme de chambre à Florence, se mit en ménage avec un cocher de fiacre qui était bien brave, mais leur petite avait mal tourné. Elle est laissée depuis 10 ans sans lettres et sans mandat poste. Attilia avait épousé ce vaurien de Marie Nunzi. Mais Ilario, lui, était sérieux. Il savait que les fleurs, c'est de l'argent. Et les 2 filles qui restaient ne craignaient pas l'ouvrage. La cadette, celle à Luca, n'avait pas toute sa tête, mais c'était encore elle qui travaillait le plus. De vrais remèdes d'amour en souliers d'homme et en sarraux d'étain, jaunes et ridés comme des vieilles, se levant avant l'aube pour mettre en botte la marchandise, peinant tout le jour, se relevant la nuit pour mettre des paillassons ou veiller au poil. Ah, il n'y avait pas de danger qu'un amoureux vint les enlever à Mère Dida. Et à Ilario, Dida avait déconseillé de prendre femme. On était assez nombreux comme ça. Et les filles d'aujourd'hui ne valent rien pour le ménage. On avait vendu une partie du terrain pour un immeuble, car Ponte Porzio maintenant n'était plus tout à fait campagne. On avait agrandi la serre sur ce qui restait. Ilario avait pour client de grands fleuristes de Via Veneto. Dida n'aurait plus été obligée d'aller chaque jour trafiquer à Rome, comme elle avait accoutumé de le faire depuis son second veuvage. Mais elle avait l'habitude de Rome. Elle aimait se faire déposer chaque matin par la camionnette d'Ilario sur la marche de marbre à l'entrée du vieux palais Conti. Entre le cinéma, qui occupait depuis 10 ans le rez-de-chaussée à gauche, et c'était une bonne chose pour le commerce des fleurs, et le café Impero sur la droite, dans la rue transversale, dont la patronne permettait à Dida de laisser pour la nuit ses bouquets invendus dans des seaux au fond du corridor. Elle aimait le bruit. Elle en avait en abondance. Elle aimait le quartier, où elle se sentait un personnage, autant que la princesse qui logeait au bel étage du palais et chaque matin marchandait ses fleurs. Depuis 30 ans qu'elle travaillait sur cette marche, elle avait vu changer bien des choses. Le grand monument blanc, là-bas, au fond de la place, avait poussé sous ses yeux. Elle avait survécu à 1 roi et à 3 saints-pères. Oh, elle aimait le métier. Elle savait sourire finement aux gens pour faire croire qu'elle les connaissait. Elle avait appris à reconnaître les étrangers et n'ignorait pas qu'ils demandent rarement leur monnaie parce que c'est trop compliqué. Et d'ailleurs, ils sont tous riches. Elle savait qui achetait sa marchandise pour l'hôpital ou pour le cimetière ou pour les parents, surtout à la Sainte-Marie et à la Saint-Jean, ou pour une belle, ou par gaieté parce qu'il faisait beau, au contraire parce qu'il faisait triste, ou parfois même par amour des fleurs. Elle aimait le petit bar où elle buvait à midi un café express et où on lui laissait sortir d'un journal sa nourriture odorante. Elle aimait rentrer chez soi par le dernier autobus, respectée du conducteur. Elle faisait à pied les quelques 500 mètres de route rurale qui la séparait de sa maison, persienne toujours bien close, en se pressant, de crainte des mauvais coups. Puis, dans la cuisine, tandis que Tullia ou Maria, ébouriffée, descendait lui réchauffer son plat de pâtes, on entendait traîner sa chaise sur le carrelage, en maugréant contre cette masure bonne tout au plus pour les bêtes, et souhaiter des apoplexies à ces feignants d'enfants qui travaillaient moins qu'elle. On la disait mauvaise. Elle était dure, comme la terre, avide comme la racine qui cherche sa subsistance, étranglant dans l'ombre les racines plus faibles, violente comme l'eau et sournoise comme elle. Pour des générations de créatures végétales, elle avait été la bonne mère et l'impitoyable parc. Mais ces anémones, ces renoncules ou ces roses n'avaient jamais été pour elle qu'une matière première, une chose née du sol et des engrais qu'on fait pousser et qu'on coupe pour vivre. Elle n'avait jamais cessé d'exploiter ces hommes dans le plaisir et le travail. Ils avaient été ses outils. Elle avait geint et mugi sur ses absents et sur ses morts, puis les avait oubliés comme une bête oublie ses compagnons des tables disparus et la portée qu'on lui a prise. Ceux de ses enfants qui lui restaient, elle les avait dressés à lui rapporter leurs gains comme les chiens des grives. Elle fourrait l'argent dans des cachettes, bien à l'abri des convoitises d'Attiléa et de son vaurien de mari, et dont Hilario même, par respect, faisait semblant de ne pas savoir tout à fait l'emplacement. Mais la meilleure était le sac crasseux qu'elle portait au cou et qui contenait, comme de saintes espèces, les billets de banque de la famille, soigneusement pliés. C'était son scapulaire, son Jésus, son bon Dieu qui ne la laisserait jamais manquer. À cause de cet argent, son gendre Marie Nunzi la saignerait un de ses jours. Ou Luca, bien sûr, l'assommerait un soir sur la route. Ou même Hilario, qu'on avait vu rôder avec une corde, lui ferait son affaire, poussé par une vilaine femme sans scrupule. Et Dida rêvait assassin, comme les vieux arbres rêvent peut-être bûcherons.
Parmi les autres personnages, Massimo et Clément.
Eh bien oui, c'est-à-dire la jeunesse et la vieillesse. Et évidemment, quand j'ai imaginé ces deux personnages, je ne les ai pas choisis pour établir un contraste allégorique. Mais il s'est fait un peu de lui-même. Massimo m'intéresse parce que c'est précisément la jeunesse. C'est un garçon qui lui-même né en exil, puisqu'il est vaguement un russe ou un slave exilé, et qui s'est mal commencé, puisque c'est un étudiant qui vit jusqu'à un certain point dans le désordre, qui trempe dans des compromis politiques qui ne sont pas très beaux, puisqu'il joue le rôle d'agent double, mais qui a en lui un certain élan, une certaine finesse, une certaine capacité même de bonté et de tendresse pour les êtres qui l'entourent, quels qu'ils soient. Et j'ai tâché de le montrer désespéré, au fond, de n'avoir pas assez de foi politique pour s'engager lui-même, même dans l'action qui a été celle de ses amis les plus chers, se sentant un peu en marge, un peu désolé, comprenant bien que les compromis l'engagent presque, sinon pour la vie du moins, risquent de le salir pour longtemps, et en même temps se demandant ce qu'il va devenir, vers quelle direction va-t-il aller, entraîné même par un certain sentiment religieux presque mystique, qui fait de lui le seul personnage dans le récit qui se place en quelque sorte par-delà même la grandeur de la révolte politique, de la violence politique, d'être forcé à cette violence par le régime sous lequel ils vivent, et qui répète en quelque sorte la prescription chrétienne « tu ne tueras pas ». C'est essentiellement un non-violent. Ce qui fait que dans cette espèce d'abjection, tout de même, d'agent double, il y a en lui, paradoxalement, quelqu'un qui est presque supérieur dans sa conception du monde, dans sa pensée, à ces êtres emportés par leur violence et leur haine. Tandis qu'au contraire, Clément Roux, c'est autre chose, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est un portrait de vieillard, et j'ai fait beaucoup de portraits de vieillard dans mes livres. C'est un Français. Et j'ai beaucoup essayé que cette voix du jeune slave et cette voix du français fassent contraste, en quelque sorte, avec les voix italiennes. Et Clément Roux est un grand peintre. Évidemment, j'ai un peu pensé à Renoir, parce que quand il décrit sa famille, c'est un peu la famille de Renoir que je décris. Et il est vieux, il est allé à Rome pour ouvrir une exposition, une rétrospective de son œuvre. Il est malade, il est fatigué. Et il a même une sorte de petite crise cardiaque dans la rue et il rencontre Massimo qui lui est bouleversé par l'attentat politique qui vient de se produire et dont il est le complice sans être un participant. Et Clément Roux, lui, est engagé d'une façon presque un peu sénile dans ses souvenirs, dans ses préoccupations personnelles. Et ces deux personnes qui ne se connaissent pas dialoguent la nuit dans la rue de Rome. Et l'hésitation, l'inquiétude de la jeunesse faisant contraste avec cette espèce de confusion de la vieillesse. Il ne se souvient plus très bien, il a fait la guerre de 14, il a eu des ennuis, il a eu des fatigues, des incertitudes et des travaux d'artiste qui n'aboutit pas, qui ne réussit pas, et puis il a eu la gloire, il ne comprend pas très bien pourquoi. Et j'ai essayé de montrer enfin, ces deux images de la vie, celle d'un garçon qui commence et celle d'un homme qui s'en va.
« Ma chance !»
crie silencieusement Massimo.
Ma chance, elle est propre, ma chance. Être celui qui ne meurt pas, celui qui regarde, celui qui n'entre pas tout à fait dans le jeu, celui qui essaie de sauver, ou qui, au contraire, l'ange des dernières heures. Et ce regard de Marcella, je ne l'oublierai pas. Mais est-ce ma faute s'il m'aime? Cette heure volée au temps sur le bord de tout. Et tout ce que j'ai trouvé à faire est de commencer par me griser de mots pour la soutenir, pour la retenir, soit. Et surtout pour cacher que ces réalités n'étaient pas pour moi. La vraie trahison n'était pas d'avoir cédé au chantage de cet agent du régime à Vienne lors de cette affaire de passeport. Encore moins cette visite forcée de l'automne dernier à un personnage d'opérette devant son bureau à casier du palais Vedoni. Non. L'illicite te plaît. Ne te défends pas. Ne tourne pas la chose en plaisanterie lugubre. Mon nom est quelque part sur leur liste. Contaminé pour toujours comme par la syphilis. Ou la lèpre. Vivre encore 40 ans avec les manifestations secondaires d'une infamie pardonnée. Demain, je serai convoqué à nouveau par le personnage d'opérette. On me posera des questions auxquelles je répondrai une fois de plus le contraire de la vérité. Pas si bête. Bête à demi. Me jugeront incompétent ou complice. Et en ma qualité d'étranger, ils me prieront de quitter leur belle Italie et de faire estampiller ailleurs mon passeport Nansen. Encore mon ignoble chance. Tout va se réduire à un séjour chez ma mère. Qui est antiquaire à Vienne.
Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu pleures.
Non, je ne pleure pas.
Pensait-il sauvagement.
Je n'ai pas même le droit de les pleurer. Une femme a été tuée ce soir, après le discours. Pas un accident, une tentative d'attentat.
Où?
Pas loin d'ici, sur la petite place de Saint-Jean-Martyr.
La pauvre diablesse.
Murmura respectueusement Clément Roux.
J'ai eu tort de lui dire cela. Il est trop vieux. Et puis trop mal portant pour avoir à s'occuper des malheurs des autres.
Mais le vieil homme s'était levé, subitement anxieux de continuer sa route.
Ce mieux ne durera pas. Autant en profiter pour rentrer, s'en aller d'ici, et demain quitter Rome.
Un taxi?
Pas tout de suite. Je voudrais d'abord... D'ailleurs, il n'y en a pas.
Et cher, à cette heure tardive. Si ce garçon un peu louche, mais serviable, consentait à m'accompagner, j'ai encore sur moi une ampoule. Après tout, ce n'est sans doute que la fausse angine.
Êtes-vous sûr de pouvoir marcher?
Quelques pas. C'est plutôt bon pour moi. Je ne suis pas tellement loin.
si nous prenions par la place des saints apôtres.
Ils prirent par la place des saints apôtres.
Il est fier de connaître encore si bien Rome.
Au bout d'un instant, le vieux s'arrêta.
Cette femme, tu étais là?
Non. Non. Non, non!
Et lui, il est indemne?
Indemne. On prétend qu'il s'en est fallu d'une ligne.
Quelle sacrée chance! Oh, bien sûr, un jour ou l'autre, il n'y coupera pas les risques du métier. Dans ma jeunesse, il avait un refrain de Bruant à propos de je ne sais quel type de la pègre. Il a crevé comme un César. C'est ça. Crever comme un César. Ce que j'en dis n'est pas pour le diminuer, au contraire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se mêle de gouverner. Puisque la plupart des gens sont trop mous pour ça. Et puis tu sais, moi, la politique, hein, d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Pourvu seulement qu'il ne nous amène pas la guerre.
Justement. Je ne suis pas d'ici, moi non plus.
Je vais t'expliquer à quoi ça me fait penser, moi, ta politique.
Dit le vieux, s'arrêtant de marcher pour parler et de parler pour traverser précautionneusement une rue vide.
J'ai un ami, chef d'orchestre à la Scala, qui m'a dit que quand on a besoin de bruit de foule, une insurrection, des gens qui gueulent pour ou contre, quoi, on fait chanter en coulisses, par des voix de basse, un seul beau mot, bien sonore. Roubarbara, en canon. Barbararou, bararoubar, baroubarba. Tu vois l'effet? Eh bien, la politique à droite ou à gauche, c'est roubarbara pour moi, mon petit.
Massimo réglait son pas sur le pas traînant du vieillard. En levant les yeux, il s'aperçut que la rue qu'il prenait était la Via dell'Umilità.
Rue de l'humilité. Monsieur Clément Roux, vous avez fait la guerre de 1914. Comment s'habituait-on à avoir des camarades avec qui l'on vivait, sachant que, dans une heure peut-être, immanquablement, cette femme, par exemple. Enfin, elle faisait partie du même groupe. L'ami d'un ami.
Oserais-tu dire d'un amant?
Pense-t-il.
Cela a peu compté pour moi et pour lui. Un bris avec son milieu. Une réaction contre son puritanisme d'homme de gauche. Un retour à quel moment de sa jeunesse? Et si cela a compté davantage, c'est dans un domaine où les mots ne vont pas. Plus sincère en ne le disant pas qu'en le disant.
Un ami. Mais je m'étais introduit auprès de lui en fraude.
Cela non plus n'est pas tout à fait vrai.
Songea-t-il, désespéré d'arriver si mal à définir quoi que ce soit.
Dès ce séjour à Kitzbühel, je l'avais averti. Je lui avais même conseillé de ne jamais rentrer en Italie. Je ne pouvais faire plus. Mais dès ce moment-là, pour lui, les jeux étaient faits.
Un ami mort.
Continua-t-il tout haut, s'adressant moins pourtant à son compagnon qu'à soi-même.
Et cette femme, je l'ai suivie tout à l'heure de loin, prudemment. C'est sur le seuil d'un café, à une distance respectueuse, comme on dit, que j'ai appris, comme par hasard. Oh, je n'étais pas forcé d'y croire, moi, à l'efficacité du tyrannicide. C'est égal. Elle a dû me mépriser au moment de mourir.
Qu'est-ce qu'il invente?
Pense le vieux, un peu alarmé.
Eh bien, mon garçon, je n'y comprends plus rien à ton histoire. D'abord, pour commencer, d'où sors-tu? Monsieur Conspire? Non? Tant mieux. Tu as une famille? Guerre, n'est-ce pas? Un domicile?
Jusqu'à demain matin.
Je m'en doutais. Et comme profession?
Marchand de faux passeports.
Ah. Alors, mon petit, rien à faire en ce qui me concerne, même si je n'en avais pas un dans ma poche. Plus envie d'aller nulle part. À moins que tu n'en aies un en bon et due forme, avec lequel on soit bien tranquille chez Dieu.
Il ne faut pas dire cela.
Clément Roux s'était arrêté, le dos contre un mur, au haut duquel une inscription en lettres de deux pieds conseillait aux citoyens de Rome de vivre dangereusement.
Cette rue, je n'y repasserai sans doute jamais plus. Et cette Rome, regardez un peu autour de soi, d'autant plus que tout de même c'est beau. Ces courbes insensibles des façades qui modèlent l'espace. Et puis, cela fait meilleur effet que d'avoir l'air de s'arrêter parce que la fatigue... Je vais bien d'ailleurs, étonnamment bien. Malgré tout, on marche comme freiné. Si quelque chose arrivait, ce petit pourrait toujours chercher du secours, à moins que les nouvelles ultimissimes de demain, Clément Roux, tombé dans la rue victime d'une crise cardiaque, dévalisé par... Non, pas méchant. Malheureux peut-être, un peu mythomane. Si un taxi passe, je ferai tout de même mieux de lui faire signe.
S'il passe un taxi, il serait plus prudent que je lui fasse monter. Le dernier était plein.
Tu parles de la guerre de 14. À cette époque-là, je n'étais déjà plus tout à fait d'âge. C'est mon frère qui s'est fait tuer à Craonne. Mais on a tant menti là-dessus que même ceux qui en sont revenus, ils ne savent plus. Et pas seulement la guerre, hein. La vie. Ainsi, quand des journalistes italiens me demandent de raconter mes souvenirs, ma mère qui avait envie que je me fasse prêtre, la voix, la dame de la ferme et son chapeau de peluche pour aller à l'église les dimanches d'hiver. Et puis Paris, et le travail et les emmerdements habituels de l'artiste qui ne se débrouille pas. Et puis la gloire, sans raison, parce que le vent a tourné. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait tant de marchands de tableaux par le monde, ni tant de gens qui spéculent sur des toiles. La bourse, les pieds humides, quoi. Et ceux qui se servaient de moi pour cogner sur les illustres de l'avant-veille, pour dire que Renoir n'était rien et Manet de la petite bière. Et puis, le moment où l'on est si connu qu'on n'intéresse plus personne. Clément Roux, classé. Et dans 10 ans, on les foutra au grenier ces tableaux parce que ce ne sera plus la mode. Et dans 50 ans, on les rependra dans les musées, y compris les faux. Et dans 200 ans, on dira que de Clément Roux, il n'y en avait pas, que c'était quelqu'un d'autre, ou même plusieurs. Et dans 1000 ans... il ne restera plus que 10 centimètres d'une toile tellement endommagée qu'on ne sait plus ce que c'est. Le grand Clément Roux, la pièce unique, repeinte et revernie, et décapée et rentoilée. Et par-dessus le marché, peut-être un faux, elle aussi. Ma gloire.
Un second taxi passa, que ni l'un ni l'autre ne hélèrent. Chacun suivait sa pensée. La lune avait pris l'aspect maléfique qu'elle a aux heures tardives où l'on n'a pas l'habitude d'être dehors et où tout, au ciel, occupe une place différente. Leurs pas sonnaient dans la rue vide.
Tous ces personnages vous tiennent vraiment à cœur. Je vois que dans la version théâtrale, Rendre à César, vous avez parlé de leur destin probable.
Mais oui, quand j'ai repris le livre en 1959, je me suis aperçu que après cet attentat de 33 que j'avais décrit en 34, un certain nombre d'années avaient passé, que certains personnages évidemment étaient morts au cours de l'action que je décrivais, mais que d'autres avaient continué à vivre. Qu'est-ce qu'ils avaient bien pu faire dans ces années dramatiques que nous avions vécues ? Je me le suis demandé. Et c'est ainsi que j'ai fini par imaginer ce qu'aurait pu être leur vie et ce qu'elle pourrait être même lorsqu'ils ont survécu plus loin que 59, à l'époque où j'écrivais ma pièce, c'est-à-dire vers 64. Et je me suis aperçu qu'il y en a qui ne se débrouillent pas, c'est-à-dire qui se font prendre au piège des événements. Il y a le naïf ouvrier qui est si content, enfin, qui a des rêves impérialistes à travers lequel on voit se dessiner la guerre d'Éthiopie et qui finira bêtement à Stalingrad, dans ce régiment italien envoyé, enfin, sur le front de l'Est. Et que Massimo, au contraire, grâce à cette espèce de légèreté et de gentillesse qui font partie de son caractère, participera, vivra à ce moment-là en France, il sera probablement traducteur, journaliste, quelque chose comme ça. Il participera à la résistance, moins par ferveur politique que pour aider des amis, enfin pour les tirer d'affaires, pour les conduire un peu plus loin vers la frontière qu'il faudrait passer, et il finira à Auschwitz. Tandis qu'au contraire, d'autres personnages, comme la jeune actrice excessivement agressive, et pas bête, mais dure, je l'imagine finissant millionnaire vers 1982 ou enfin quelque chose comme ça, c'est-à-dire à quelques années d'ici, ayant épousé un Américain ou même successivement plusieurs Américains et mourant dans une belle villa luxueuse et pas ornée avec un très bon goût à Miami.
Et est-ce que vous comptez éventuellement écrire une suite ?
J'ai souvent pensé à un ouvrage qui s'appellerait « Suite et fin » et dans lequel on retrouverait ces personnages. Mais ça, c'est un projet parmi beaucoup d'autres.
C'était Un livre des voix, le denier du rêve. Une émission de Pierre Cipriot et Evelyne Frémy, avec Marguerite Yourcenar et des lectures de Pierre Galbeau, Pierre Constant et Henri Nassier, diffusée pour la première fois le 5 juillet 1971.